Pour tous les animaux, on cherche à optimiser, à augmenter leur productivité.
Un homme qui ne respecte pas la vie n'est pas un être humain.
On ne veut pas en fait qu'il y ait d'animaux qui soient tués juste pour le plaisir des humains.
Mais respecter aussi la vie des animaux qui sont des êtres sensibles.
Un long combat, c'est faire reconnaître les animaux en tant qu'autre chose que des ressources à notre disposition.
Abolissons la mort et vive la vie!
La chronique animaliste animée par
One Voice
et 214
et Nantes Vivante.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique animaliste. On va parler aujourd'hui d'agriculture et des animaux. On va voir un petit peu comment cultiver un monde sans souffrance animale. Alors que les agriculteurs et les agricultrices ont fait trembler les terres dans leur lutte pour une agriculture plus juste, que les écologistes ont rappelé l'importance d'une agriculture plus durable et respectueuse de l'environnement, il y a des voix que nous avons très peu entendues, celles des animaux. Pourtant, les premiers concernés par la plupart des mesures prises. Le système agricole actuel est défaillant, entraînant une souffrance chez celles et ceux qui en vivent et nous nourrissent, une dégradation de la nature et de l'environnement, mais aussi un système qui pousse à une exploitation animale affolante, conduisant à des conditions d'élevage et de captivité abominables pour les animaux. Alors peut-on changer ce système agricole? Comment venir en aide aux personnes, à l'environnement et aux animaux? Ce sera la thématique de cette émission. Nous allons discuter ensemble avec Karine Letellier. Bonjour Karine.
Bonjour Kylian.
Bénévole au Parti Animaliste et moi-même, donc Kylian, co-référent de One Voice Loire-Atlantique. Je vais commencer par une première question, Karine. Comment s'intègrent les animaux dans l'agriculture aujourd'hui?
Alors, l'intégration des animaux dans l'agriculture est un sujet complexe qui a évolué au fil du temps. Cependant, les animaux sont encore énormément exploités aujourd'hui.
En effet, par exemple, celui qu'on connaît le plus, je pense, c'est l'élevage comme source de produits alimentaires et non alimentaires.
Oui, les animaux d'élevage fournissent des produits tels que la viande, le lait, les œufs, le miel, la laine et la peau. Ils sont également utilisés comme source d'énergie, notamment pour la production de biogaz et de combustible.
Et pour la traction animale, je vois de plus en plus de vidéos qui tournent là-dessus. C'est quoi en fait ?
Alors oui, dans certaines pratiques agricoles, les animaux sont utilisés pour la traction. Ils aident à effectuer des tâches telles que le labourage, l'exor de l'eau, le semis, le sarclage et le transport de récoltes.
Qu'il y a un impact sur la biodiversité et les écosystèmes?
Oui, l'élevage a des effets négatifs sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. La suppression physique des arbres et des haies, l'érosion du sol, l'utilisation d'insecticides et d'antibiotiques, ainsi que la mondialisation des systèmes agroalimentaires sont autant de pressions exercées sur les écosystèmes.
Lors de la médiatisation de la thématique agricole de ces derniers mois, peu de choses en fait ont été dites sur les animaux. Quand c'était le cas, c'était souvent pour montrer l'amélioration du bien-être animal dans les élevages, mais qu'en est-il vraiment ?
Eh bien, les associations de protection animale peinent à croire qu'il y a une réelle amélioration du bien-être animal. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 95% des cochons sont élevés en élevage industriel, de même que d'autres animaux comme les poulets. 750 millions de poulets élevés chaque année en France, dont 83% dans les élevages intensifs. Et les lapins ? Cela concerne au moins 99% des lapins qui sont élevés de façon intensive. Donc finalement, plus de 8 animaux sur 10 en France sont élevés en élevage intensif.
Ok, donc on voit qu'en fait, on parle pas mal de bien-être animal. On voit même dans des publicités des animaux qui ont l'air heureux sur des pelouses, ou plutôt des champs, avec de l'herbe. On se rend compte qu'encore aujourd'hui, plus de 80% des animaux en France sont toujours élevés en élevage intensif. Donc pas du tout ce qu'on voit sur les publicités, quoi. Et on a pas mal parlé en ce moment, depuis quelques temps, avec L214, notamment en France, mais avec d'autres associations de protection animale, de l'ECC, l'European Chicken Commitment. Donc, en quelques mots, voilà, d'ici 2026, ce que demande l'ECC, c'est de respecter déjà toutes les lois et réglementations de l'Union européenne en matière de bien-être animal, quel que soit le pays de production, mettre en œuvre une densité d'élevage maximale par mètre carré, recourir à des races dont l'intérêt pour le bien-être animal a été démontré, plutôt que des races qui ont été sélectionnées génétiquement, etc., pour faire en sorte que ce soit vraiment une production vraiment affreuses. Je pense que tu as vu des vidéos.
Oui, bien sûr. Oui.
Et donc, voilà, on respectait des normes pour faire en sorte qu'il y ait des conditions de meilleure qualité pour les poulets. Et on a le penchant aussi pour les cochons. Le Pig Minimum Standard, PMS, qui lui dit que d'ici 2030, il faudrait donc aussi respecter toutes les lois et réglementations de l'Union européenne en matière de protection animale, bon, ce qui paraît logique hein, comme ça. Mettre fin à toutes les mutilations aussi, parce que bon, il y a beaucoup de mutilations qui sont encore pratiquées sur les cochons.
C'est horrible.
Mmh. Comme quoi, par exemple ?
La coupe des queues, la castration chirurgicale, la section des dents, même partielle, hein, sont strictement interdites.
Et donc, on souhaite aussi interdire donc, les méthodes d'étourdissement et de mise à mort des animaux en élevage par percussion crânienne manuelle. Ça existe encore aujourd'hui, et puis l'idée avec le PMS, c'est d'interdire tout ça. Il y a bien entendu d'autres règles qui sont demandées à être respectées dans ce PMS, comme toujours le fait d'avoir moins d'animaux par mètre carré pour qu'il y ait un petit peu plus en effet, de place pour que ces animaux-là puissent vivre, si je puis dire. Et donc, quel est l'impact des élevages industriels sur les animaux ?
Il y a des impacts émotionnels sur les animaux, des blessures, des maladies, des souffrances, des excroissances, des mutilations, des comportements agressifs envers leurs congénères.
Oui, en fait, ces animaux tombent fous, en fait.
Oui, c'est ça, ouais.
D'accord, parce que, bon, évidemment, leurs conditions sont affreuses. Mm-hmm. Bien, et donc, qu'en est-il, en fait, des élevages bio ? Parce qu'on parle pas mal du bio, mais...
Alors, ils s'engagent à améliorer les conditions de vie des animaux, de stockage de carbone amélioré, meilleur pour l'environnement. Cependant, l'animal reste quand même considéré comme une marchandise. Il est utilisé uniquement pour faire du profit.
Oui, en effet, oui. C'est vrai que, bon, même si, a priori, il y a quand même des choses qui sont mieux, hein, il faut quand même le reconnaître, la finalité reste la même pour l'animal. Quoi. En moyenne, il me semble qu'il vit un petit peu plus longtemps, mais bon, ça reste toujours ridicule par rapport à son espérance de vie. Et donc, l'axe de cette émission est sur les animaux, mais on va parler aussi de l'impact sur l'environnement et sur les animaux humains. Quels sont les impacts sur ces deux éléments ?
Les élevages, qu'ils soient bio ou conventionnels, peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement. Cela inclut les émissions de gaz à effet de serre, notamment le méthane et les rejets des animaux. Comme on peut le voir, par exemple, avec les phénomènes d'algues vertes en Bretagne, donc causés par les déjections des cochons qui polluent les eaux.
Oui, en effet, on en entend parler de plus en plus. Et d'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une vidéo de Vaquita avec Hugo Clément qui en reparlait et qui explique plutôt bien la chose. Hein, de diminuer l'élevage plutôt que de faire des vraies campagnes pour arrêter cet élevage intensif sur les cochons. Eh bien, on préfère payer des personnes qui vont avec des pelleteuses enlever les algues vertes pour que ce soit pas dangereux pour les touristes ou autres personnes qui vivent sur ces plages-là. Enfin bref, je vous laisse regarder ça vous-même.
Il y a totalement aussi une omerta par rapport aux Bretons, par rapport à l'élevage et tout ça. Je ne sais pas si tu as vu le film qui est sorti récemment au cinéma.
Pas encore, on m'en a beaucoup
D'accord,
parlé,
ouais.
Mais ce serait bien que
il faut aller le voir, ouais. C'est vraiment intéressant.
Il s'appelle comment ce film ?
Donc le film s'appelle Les algues vertes.
Et donc on a beaucoup entendu parler de la PAC, la fameuse politique agricole commune, et de son rôle dans les subventions accordées aux agriculteurs et agricultrices. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ?
Alors oui, le Salon de l'agriculture vit au rythme de la politique agricole commune de l'Europe, elle-même mise en place depuis 1962. Depuis, la France et l'Europe ont connu une vaste industrialisation de l'agriculture et de l'élevage. Cette politique agricole a été absolument néfaste, aussi bien pour les agriculteurs que pour les consommateurs et les animaux. À l'occasion des Européennes 2024, le Parti animaliste propose un grand rééquilibrage de la politique agricole. Ce rééquilibrage doit être porté non seulement par le Parlement européen en vue de la PAC 2028-2032, mais aussi par l'État français dès maintenant.
Puis la PAC, bon, il y a quand même des choses qui sont intéressantes dedans, mais est-ce que c'est intéressant pour le bien-être animal ? Est-ce que ça joue un rôle dans la promotion d'un système d'élevage plutôt intensif ? Ou est-ce que ça encourage une agriculture durable ?
Alors, la PAC ne promeut pas spécialement l'élevage intensif, cependant, elle peut indirectement soutenir certaines pratiques agricoles, y compris l'élevage intensif, via les aides au développement rural.
Et donc, on va peut-être voir un petit peu vers l'avenir, si ça vous va. Et est-ce qu'on peut imaginer, et au-delà d'imaginer, même peut-être y arriver, à avoir une agriculture sans souffrance animale ? Quelle agriculture pourrait-on imaginer ?
Une végétalisation progressive de l'alimentation, prendre en charge l'endettement des éleveurs qui arrêtent l'exploitation des animaux en une reconversion végétale, réorienter l'ensemble des subventions de la PAC pour des aides à une reconversion des éleveurs vers une production végétale pour l'alimentation humaine, soutenir les agriculteurs afin qu'ils s'orientent vers la production végétale destinée à l'alimentation humaine, favoriser la production de cultures maraîchères et de protéines végétales avec un mode de production respectueux des animaux et leur environnement et assurer un revenu décent aux agriculteurs, garantir l'application des normes européennes de protection animale pour les importations venant des pays tiers, fixer un taux de TVA réduit sur les produits alimentaires végétaux.
C'est une feuille de route qui est proposée par le Parti animaliste.
Ouais.
Et donc, on l'a vu, une grande partie des décisions à prendre se base sur les décisions européennes. Mais en fait, la France, est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans ces décisions ?
Oui, bien sûr. La France occupe une place centrale dans les décisions européennes concernant l'agroalimentaire. Donc, notamment sur les politiques agricoles communes, les négociations commerciales, les normes alimentaires et sécurité sanitaire, la représentation au Parlement européen et au Conseil de l'UE. En somme, la France a une grande influence significative sur les politiques et les décisions européennes liées à l'agroalimentaire, en veillant à la durabilité, à la qualité et à la sécurité des produits alimentaires.
Premier producteur agroalimentaire en Europe.
Oui, tout à fait.
Les consommateurs et les consommatrices, on n'a pas encore parlé de ces personnes-là, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer dans cette transition vers une agriculture respectueuse des animaux ?
Oui, bien sûr, dans le mode de consommation, donc il faut manger le plus possible de plats 100% végétaux. Dans les votes politiques à l'échelle européenne et nationale.
En effet, en fait, finalement, on peut agir à notre, oui, à notre petite échelle, si je puis dire, quoi. D'accord. D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire qu'en fait, bah, c'est le premier éco-geste au niveau individuel, c'est de manger végétal. N'hésitez pas à regarder la campagne, d'ailleurs, poussée par L214. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Karine.
Bah, de rien, Kylian.
Finalement, aujourd'hui, on a voulu vous rappeler que l'agriculture actuelle impacte aussi et surtout les animaux et qu'il est temps de trouver de nouvelles graines, de les planter et de les cultiver pour créer une agriculture respectueuse des animaux. Une agriculture qui prend en compte les animaux et aussi une agriculture en faveur de l'environnement et des êtres humains. C'est au travers de cette solidarité interespèce que nous pourrons créer un système durable capable de nourrir les populations sans créer de souffrance chez les animaux humains et non humains. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt dans notre prochaine chronique animaliste.
Pour tous les animaux, on cherche à optimiser, à augmenter leur productivité.
Un homme qui ne respecte pas la vie n'est pas un être humain.
On ne veut pas en fait qu'il y ait d'animaux qui soient tués juste pour le plaisir des humains.
Mais respecter aussi la vie des animaux qui sont des êtres sensibles.
Un long combat, c'est faire reconnaître les animaux en tant qu'autre chose que des ressources à notre disposition.
Abolissons la mort et vive la vie !
La chronique animaliste, animée par
One Voice,
L214
et Nantes Vivantes.